Réplique, les droits de l'homme valent-ils pour tous les hommes, avec Marcel Gauchet et Mohamed Harkoun. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. C'est implicitement, ou de façon explicite, ces deux articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'ont invoqué tous ceux qui, en France, se sont mobilisés contre la condamnation à mort de Salman Rushdie par l'imam Khomeini. Cette référence était-elle pertinente et légitime, ou témoignait-elle de l'incapacité de la pensée occidentale d'évoluer en dehors de modèles historiques mis en place en Europe? Voilà la question que je voudrais ce matin poser à mes deux invités, Marcel Gauchet, qui vient de publier chez Gallimard La Révolution des droits de l'homme, livre qui est d'un seul tenant, c'est son grand mérite, une réflexion philosophique sur les enjeux de la Déclaration des droits de l'homme et la restitution minutieuse, précise, documentée des échanges dont sont sortis les 17 articles arrêtés le 26 août 1789. Et Mohamed Harkoun, professeur d'histoire de la pensée islamique à Paris 3 et qui vient de publier Ouverture sur l'islam chez Jacques Granchet.
Au pluriel.
Oui. Tout seigneur, tout honneur, Mohamed Harkoun, c'est vous que j'interrogerai d'abord, parce que c'est par vous que le scandale est arrivé. Dans un entretien publié par le journal Le Monde, le 15 mars de cette année, et qui a fait beaucoup de bruit, vous avez dit, Mohamed Harkoun, que la conception occidentale des droits de l'homme renforçait le malentendu avec l'islam, car, je vous cite, « sans tenir à ce discours, ce serait exiger des autres cultures qu'elles s'enferment dans le seul modèle occidental de développement historique, de réalisation intellectuelle et artistique. Ce serait répéter le discours colonial qui légitimait la domination sur les autres peuples et cultures par l'exportation de la civilisation élaborée en Europe. » Autrement dit, ceux qui, comme moi, croyaient que le colonialisme reposait sur la volonté non d'exporter les droits de l'homme, mais de les limiter, de les réserver à l'homme blanc, cela était dans l'erreur. Ils avaient tout faux. Est-ce que je vous ai bien compris, Mohamed Harkoun?
Oui, d'abord, merci. Merci de m'inviter pour pouvoir m'expliquer sur cet article qui, effectivement, plutôt cette interview qui, effectivement, a fait beaucoup de bruit. Parce qu'elle a été malheureusement très mal comprise. J'avais l'ambition de lever des malentendus et j'en ai créé beaucoup d'autres et peut-être plus graves. Alors, je dirais tout de suite que ce que je vise dans la phrase que vous venez de citer, c'est la différence de rythme chronologique dans l'évolution historique des sociétés musulmanes d'une part et des sociétés européennes d'une part. Je vais dire tout le temps « européen » dans cette émission parce que je voudrais distinguer le concept, à mes yeux, géopolitique d'Occident et le concept essentiellement historique dont nous allons parler aujourd'hui, précisément sur ce sujet-là. Et ma perspective est une perspective historique pour essayer simplement d'expliquer que le décalage historique que nous sommes en train de vivre entre les sociétés musulmanes et les sociétés européennes fait que on ne peut pas, comme cela, brutalement, invoquer les droits de l'homme tels qu'ils sont formulés dans la déclaration pour prendre des positions qui nécessairement affectent les sociétés musulmanes en question. C'est donc une mise au point d'ordre historique. Il n'est absolument pas question dans mon esprit, et je l'ai suffisamment écrit, et ce n'est pas la première fois que je l'écris et que je l'enseigne, de mettre en question l'universalité des droits de l'homme dans leur formulation et en tant que projet politique pour toutes les sociétés. Ceci doit être bien clair.
Mais vous pensez donc qu'ils ont une certaine universalité, mais que le décalage chronologique entre les différentes sociétés, on ne pouvait pas les invoquer telles quelles
dans ce cas précis. Parce qu'on porte atteinte, justement, à l'équilibre même de ces sociétés qui, comparées aux sociétés, encore une fois, européennes, ne peuvent pas recevoir un événement culturel ou un livre de ce type-là. De même que les sociétés européennes, avant la Déclaration des droits de l'homme et avant justement tout ce qui va intervenir, ne pouvaient pas recevoir non plus et n'ont pas reçu historiquement un certain nombre d'événements culturels et un certain nombre d'ouvrages. C'est tout ce que je dis.
Marcel Gauchet.
Je vous suis aisément sur ce terrain, en effet, pas d'angélisme, ne faisons pas comme si les droits de l'homme étaient une illumination survenue hors histoire, hors de tout contexte social, historique,
et culturel,
religieux. Elle suppose une assise, un développement, une certaine société pour prendre forme. Et après tout, n'invoque-t-on pas à tout moment dans le débat français sur la déclaration des droits de l'homme d'août 89, l'exemple américain en disant il est très dangereux d'imiter un exemple
voilà.
qui se situe à l'intérieur d'une société tellement différente que son imitation sera voilà. source de distorsion
Exactement.
Très dangereuse.
Exactement. Donc, c'est dans le même esprit que j'ai fait cette...
Sur ce point, on vous suit sans peine. Deuxième élément, il est vrai que dans tous les cas, l'Occident sur ce terrain se trouve dans une situation délicate. Puisqu'il se trouve, par le décalage que vous situez très justement, dans une position, sinon d'imposer, puisque comme Alain Finkielkraut le soulignait, il y a de la marge entre imposer la force, qui était la situation coloniale, et imposer le droit, qui relève à l'évidence d'une autre intention. Mais... il faut admettre qu'on se trouve devant des cultures qui ont connu un développement historique assez dissemblable, même si leurs bases ne sont pas si éloignées qu'on a coutume de le dire.
Et justement,
vous êtes plutôt l'un de ceux qui insistent sur cette proximité de racines entre le monde islamique et le monde chrétien,
oui.
ou le monde juif aussi bien. Nous sommes à l'intérieur de la même ère de civilisation, donc a priori prédisposés à se comprendre. Néanmoins, il y a cette situation où, de l'extérieur, une civilisation qui a la force du développement pour elle, effectivement, impose ce qui est sa norme idéale à une autre culture qui n'est pas prête toujours à l'admettre immédiatement.
Exactement.
Tout cela est vrai. Reste que la question que je voudrais vous poser sur cette base-là, et celle de la tâche d'intellectuel médiateur, comme vous, qui précisément est fait pour créer un pont entre des mondes qui spontanément ne sont pas destinés nécessairement à s'entendre immédiatement, est-ce qu'il n'est pas très dangereux de parler d'une conception occidentale des droits de l'homme, comme si, d'ailleurs, on supposait par cette expression même qu'il y a d'autres conceptions. Est-ce qu'il y a une conception orientale ou une conception islamique des droits de l'homme? Je ne sais pas si l'expression aurait beaucoup de sens, et il est très dangereux en tout cas de le supposer, parce que c'est faire appel à un modèle d'étrangeté des cultures les unes aux autres qui nous amène à supposer qu'en dernier sort, seule la force tranche ce genre de différend. Est-ce que le fait que les droits de l'homme viennent par le dehors dans leur expression de l'universalité ne doit pas empêcher, n'est pas de nature à interdire de reconnaître leur universalité. Autrement dit, le fait qu'ils soient nés, qu'ils se soient imposés en Europe, pour reprendre vos termes, même si c'est une Europe qui est atlantique, d'autre part le fait qu'on sait bien que leurs conditions d'exercice supposent des conditions sociales qui ne sont pas forcément réunies, est-ce que cela doit nous empêcher d'en parler dans l'universel?
Oui.
C'est une chose très différente.
Oui, alors, mon expression, je le reconnais, était sans doute maladroite, et c'est peut-être le genre de l'interview qui le veut. La deuxième chose essentielle que je voulais en réalité souligner dans cette interview, ce sont les fondements philosophiques ou théologiques de ce que nous nommons les droits de l'homme. En effet, lorsque je parle de la conception occidentale, j'aurais dû dire la conception qui a triomphé dans la ligne de la laïcité ou du sécularisme, qui quand même est une rupture sur le plan intellectuel et sur le plan philosophique avec ce qui a existé auparavant, aussi bien dans la tradition islamique que dans la tradition chrétienne et juive. J'ai invoqué, trop abruptement, hélas, et les gens n'ont pas compris là non plus, les droits de Dieu. Et l'expression « droit de Dieu » est commune, vous le savez, aussi bien aux juifs, aux chrétiens et aux musulmans. Nous sommes dans le même espace intellectuel, au temps où l'intelligence s'appliquait à définir une théologie des droits de Dieu, plutôt une théologie des droits de l'homme, articulée à une théologie des droits de Dieu. N'est-ce pas ? Et là, nous sommes dans un espace commun. Et ce que je veux soulever, ou plutôt le champ de réflexion que je veux ouvrir, c'est celui d'une reprise réflexive, à nouveau frais, grâce aux problèmes que nous pouvons poser aujourd'hui dans la perspective d'une anthropologie culturelle et d'une anthropologie religieuse, la question de la théologie, telle qu'elle a été développée pendant des siècles par ce que j'appelle les sociétés du livre, avec un L majuscule, avec toute la situation herméneutique qui a caractérisé la réflexion juive, chrétienne et musulmane, jusqu'à justement la Révolution, et la rupture profonde, qui est, comme je l'ai dit, une rupture intellectuelle et une rupture sémiologique. Je m'excuse de réintroduire ce mot. Les gens ont cru que je voulais faire l'érudit ou je ne sais quoi en employant ce mot, mais c'est très important, parce que la théologie affecte l'ensemble des systèmes culturels qui ont été construits justement pendant toute la période qui a précédé la rupture en question. Et ce passage-là pose, et nous pose, je crois, aujourd'hui, des problèmes de fondement philosophique des droits de l'homme. Et c'est dans la mesure où l'Occident, où l'Europe affirme une solution modèle des droits de l'homme appuyée sur l'option philosophique que représente la laïcité, c'est dans cette mesure-là que je parle d'une conception occidentale des droits de l'homme.
Vous dites même construite en France sous la Troisième République, la laïcité me paraît aujourd'hui intellectuellement dépassée.
Sous la Troisième République, effectivement. Oui. Sous la Troisième République. Mmh. Cela ne veut pas dire non plus que je minimise la laïcité ou que je rejette la laïcité. Mmh. Je suis un partisan farouche de la laïcité en tant que solution politique et juridique. Mmh. Mais la laïcité pose, elle aussi, des problèmes d'options intellectuelles qui doivent être ouverts et qui doivent être discutés dans le champ intellectuel nouveau dans lequel nous sommes en train d'évoluer. Voilà tout ce que je vous... Et je crois que je vous rejoins en tout cela, dans ce que
vous avez
rejoint
là-dessus, M. Gauchet.
Oui, dans le plan des principes, dans une certaine mesure, je crois que nous sommes d'ailleurs nombreux à penser qu'une certaine version de la laïcité combattante est tout simplement... périmé.
Absolument.
Mais c'est là que je vise. Reste à voir ce qu'on est au-delà de cette laïcité dans son modèle périmé. Mm-hmm. Et j'ajoute, par exemple, au passage, puisque vous évoquiez dans cette interview très précisément, le modèle des départements régis toujours par le concordat pour une situation qui serait un aménagement possible de la condition des musulmans en France, je ne suis pas sûr que le modèle concordataire soit au-delà de la laïcité. Je crains qu'il soit en deçà. Mais là, on discute de questions très particulières. Mais il y a dans la laïcité, disons, dans son principe fondamental, une expression historique particulière d'un principe droit issu de la Révolution française et qui est au fond le cœur de ce que recoupe ces questions droits de l'homme dans leur actualité, c'est le concept droit de l'individu. Parce que de tous les côtés, je crois, il y a une équivoque dans la qui est liée à la fortune même du mot, que des croyants de toute confession, et je précise bien, je ne songe pas uniquement aux musulmans, peuvent reprendre à leur compte pour lui en détourner le sens, littéralement, en nous parlant de droits qui seraient des droits appartenant à l'espèce humaine et qui n'appartiendraient en aucun cas aux droits de l'individu, eux assimilés à l'impure source révolutionnaire et aux prétentions abusives de l'individu moderne en regard de la tradition des croyants. Alors, je vous pose très précisément une question qui a rapport à l'affaire Rushdie, car au-delà de l'évidence que était le problème liberté d'expression, il y avait derrière une revendication dans la qui touchait peut-être plus au fond encore, et qui est là-dessus sur quoi j'aimerais vous entendre vous exprimer, qui était la question de savoir si une condamnation d'un blasphémateur pouvait valoir pour quelqu'un comme Rushdie, tout simplement parce qu'il était d'origine musulmane, donc appartenant à une communauté de croyance qui le plaçait sous la juridiction des autorités de cette croyance. C'est-à-dire que là, on a très clairement, je pense, c'est au fond là plus dans la racine qu'est l'atteinte aux droits de l'homme, c'est-à-dire la dénégation des droits de l'individu rejeté. En fait, il n'existe pas comme individu, il est une pièce d'une communauté et il est redevable de compte à cette communauté. Alors là, on est effectivement aux antipodes du concept moderne des droits de l'homme.
Absolument.
Alors justement, quels sont les droits
Je suis très à l'aise pour répondre à la question. Pour répondre à la question telle que vous la formulez, je suis très à l'aise en ce sens que, justement, j'ai parlé de ce décalage historique. Il est évident que si Rushdie se trouvait en Iran ou se trouvait dans une terre de souveraineté musulmane, automatiquement, étant donné que, à tort ou à raison, je ne porte pas de jugement là-dessus, étant donné que ce qu'on appelle la charia, c'est-à-dire la loi musulmane, le droit musulman, s'applique dans une terre de souveraineté musulmane comme l'Iran, bien, on lui applique le droit...
Donc on condamne à mort.
Éventuellement, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qui arriverait si on applique le droit tel que, encore une fois, il fonctionne dans un pays comme l'Iran, ou dans un pays comme le Soudan, ou dans un pays comme le Pakistan, etc.
On sait que c'est moi qui ne peux pas prétendre avec l'apostat.
En raison, il faut tenir compte de ce décalage historique. Ce que j'ai reproché, n'est-ce pas, à ceux qui ont pris position sur cette affaire-là, c'est de ne pas tenir compte de cette situation historique où se trouvent les sociétés.
Vous avez quand même joué, me semble-t-il, dans votre entretien, Mohamed Harkoun, sur les deux tableaux de la réflexion historique et, disons, de la prise de parti, puisque vous dites, après tout, un écrivain n'a pas forcément le droit de tout dire et de tout écrire, et d'une certaine manière, Rushdie a porté atteinte à des symboles, à des figures qui forment le nœud de l'identité d'un groupe. Le prophète est un paradigme de l'existence humaine et il est très grave, d'une certaine manière, de s'en prendre à lui. Donc, on voudrait savoir sur quel plan vous vous placez. Est-ce que vous placez sur le plan purement historique, vous dites, ben oui, il y a un décalage, voire un retard, ou bien est-ce que vous placez sur un plan plus universel pour dire, au fond, Rushdie a eu tort de porter atteinte à une dimension du sacré.
Bien, alors, je me place effectivement, j'exerce, si vous voulez, en tant que chercheur et intellectuel, deux solidarités historiques. Lorsque je parle là, comme vous venez de dire, je me place du côté de l'histoire des sociétés musulmanes et de l'état actuel, de l'état culturel et intellectuel actuel des sociétés musulmanes. Ce que je dis là, d'ailleurs, a retenti si profondément du côté musulman que tous les musulmans s'y sont reconnus. Ça compte quand même. Ceci ne veut pas dire que je renonce à ma position critique et à ma recherche telle que nous, ici, en Europe, nous pouvons la conduire. Et c'est ce que je demande aux intellectuels ici, de pratiquer avec moi cet exercice peu confortable. Qui consiste justement à prendre en compte historiquement la réalité culturelle, la réalité intellectuelle telle qu'elle fonctionne, et politique, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui dans ces sociétés, sans perdre de vue la solidarité historique avec tout ce que englobe les droits de l'homme et tout ce dont nous parlons, et l'avancée nécessaire de ces droits de l'homme, y compris pour les sociétés musulmanes. Et c'est cette double solidarité que j'exerce et que je revendique. Vous avez parlé, je crois, vous, monsieur Gaucher, de médiateur. C'est cela la fonction.
Monsieur Gaucher.
C'est cela la fonction du médiateur. Elle n'est pas confortable intellectuellement, c'est très difficile. Et les deux publics, parce que le public musulman, lorsque je parle de la critique de la raison islamique, je m'honore d'être le premier auteur parmi les orientalistes aussi bien que les musulmans à avoir publié un livre sous le titre « Critique de la raison islamique ». Et ce titre ne peut même pas être traduit en langue arabe. Il est insupportable intellectuellement au sens propre en langue arabe. C'est vous dire, n'est-ce pas? Si l'on veut entretenir une communication avec un double public qui est si décalé intellectuellement, culturellement, juridiquement, politiquement, tout ce que vous voudrez.
Marcel Gaucher.
Oui. J'admettrai bien l'inconfort que vous décrivez. Ce que je me poserai alors comme question, c'est dans quelle mesure la tâche n'est pas néanmoins de plaider compris à l'intérieur de l'ère de croyance islamique et de l'ère de culture islamique, compte tenu de tous les obstacles que vous dites, pour des droits qui, vous le soulignez vous-même, ont une certaine racine religieuse.
Je plaide pour les droits. Je plaide, je le fais, hein.
Oui,
oui. Donc, je ne le fais peut-être pas assez dans cette interview, mais enfin, une interview, c'est une interview. Hein, c'est...
Non, mais parce que là, vous avez un cas de figure très précis, quand même. Vous avez le cas de quelqu'un, d'un individu, précisément. C'est l'occasion de plaider pour ce droit, puisqu'il y a un individu qui se voit menacé dans ses droits et qui, lui-même, est issu de cette ère de culture. C'est-à-dire, même s'il y a ce décalage historique en général, Rushdie a dit, pour moi, ce décalage n'existe pas, parce que ces droits, au fond, je les revendique dans l'exercice même de ma fonction d'écrivain.
Oui.
Alors cette gauche,
oui, ce n'est pas la même chose d'expliquer dans un premier temps le pourquoi d'une certaine réaction. En effet, là vous faites votre travail d'historien et vous nous éclairez sur des réactions qui après tout peuvent paraître étranges, en tout cas aux gens qui ne sont pas informés. Mais autre chose est justement dans un second temps de plaider auprès des ressortissants du livre de la raison islamique pour ce que leur propre foi comporte de base pour des droits d'un individu. Vous écrivez vous-même dans votre dernier livre qui a été évoqué à l'instant, le discours de la transcendance et de l'absolu ouvre un espace infini pour la promotion de l'individu hors des contraintes des pères et des frères, des clans et des tribus. C'est une phrase à laquelle je souscris tout à fait. En effet, là où existe le monothéisme, le sens de l'individu et donc la racine théologique du concept de droit de l'homme est possible. Oui. Sur ce point, nous nous entendons. Oui. Mais est-ce que nous savons aussi qu'en Occident, il n'en est pas passé en ligne droite des Écritures saintes à la Déclaration des droits de l'homme, mais que c'est au prix d'un combat, et d'un combat où la laïcité a joué, quoi qu'on doive aujourd'hui en moduler les formes, rôle capital.
Oui, oui, oui.
Est-ce que, précisément, la fonction de l'intellectuel médiateur n'est pas d'en appeler, à l'intérieur même de l'islam, à ce qui y permet le développement d'une culture des droits de l'homme contre une certaine tradition demeurant, disons très sommairement, communautaire, et où la pression du groupe sur l'individu lui interdit l'exercice des droits effectifs.
Je voudrais faire remarquer
quelque chose,
que ce qui m'a le plus peiné et étonné fortement dans les réactions à cette interview, c'est que des collègues arabisants et islamisants qui connaissent mes écrits depuis 30 ans et qui savent que je mène ce combat à l'intérieur de la pensée islamique dont vous parlez, je fais une critique sans concession de la théologie islamique et du droit musulman. Et cela m'attire les foudres de tous les oulémas actuels et de beaucoup d'intellectuels, parce que je vais très loin dans ce sens. Alors, que ces collègues-là, connaissant cela, me reprocher ce qu'ils m'ont reproché. C'est un procès que je ne mérite pas.
Justement, Mme Darkoun, la question qu'on peut vous poser, c'est pourquoi, dans cette occasion précise, n'avez-vous pas mené le même combat? Pourquoi
Moi, j'estime que je mène le même combat.
Il semblerait même que vous nous appelez, si vous voulez, à comprendre la réaction de la communauté ou d'un certain nombre de communautés musulmanes devant le livre de Rushdie.
Oui.
Vous semblez, dans cet article, dans cet entretien, prendre plutôt, pour reprendre les termes de Marcel Gauchet, le parti de la communauté que le parti de l'individu que cette communauté menace. Plus compréhensif à l'égard de la communauté qu'à l'égard de l'individu. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout écrire, il a sans doute eu tort.
Non. Là aussi, j'ai posé, quand même, au début de mon entretien, j'ai posé le problème du sacré.
Ah oui.
Et en réalité, ce que je veux, ça n'est pas de défendre à tout prix ma communauté. Je le fais quand il faut le faire, mais là, je veux soulever des problèmes de fond. Et j'ai soulevé le problème du sacré. Et j'ai voulu suggérer, en tant que problème toujours, que justement une certaine laïcité nous rend presque aveugle à cette dimension du sacré qui existe sous des formes changeantes dans toutes les sociétés, y compris les sociétés qui croient avoir liquidé le sacré. Et que, donc là, il faut faire attention à un ouvrage qui précisément s'attaque au fondement même de ce sacré.
dans une société et dans une tradition de pensée, à savoir la personne du prophète et le phénomène même de la révélation tel que la conscience musulmane l'a intégré. Et ça, c'est un problème qu'il faut considérer. Et les anthropologues parlent du sacré dans les sociétés, et je veux poser ce problème. Je ne veux pas défendre à tout prix l'attitude des musulmans qui rejettent ce livre. Pas du tout. Et quand je parle aux musulmans, je leur dis que, bon, ce livre, effectivement, on peut discuter sur la manière dont il a fait ce travail, etc. Ça, la discussion est ouverte. J'ai commencé par dire que ça relève de la critique littéraire. Ça, c'est le travail de la critique littéraire. Mais je l'ai dit en une phrase, bien entendu. Et c'est ça, c'est sérieux. Mmh. Il faut que la critique littéraire se prononce quand même sur ce travail. Pour dire...
Il faut que le livre existe pour que la critique littéraire se prononce.
Le livre existe.
Je suis content. Oui, non, mais qu'il existe partout. Oui. Voilà, la critique littéraire mondiale se prononcera sur ce travail.
Le livre existe et il existera. Ne vous en faites pas. Et il existera. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le livre existe et... Alors, il faut faire une critique littéraire sérieuse et se poser la question que personnellement je vais me poser. Je vais m'occuper de ce livre. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que l'apport littéraire, l'apport artistique, et est-ce que ce livre est une promotion, si vous voulez, des valeurs dont peuvent se réclamer les sociétés musulmanes, sur tous les plans, littéraires, philosophiques, culturels, etc. Ou bien est-ce que c'est une sorte de manipulation gratuite de quelque chose qui est tout de même important?
Oui, là je crois que vous arrivez sur un terrain très dangereux et peu défendable, parce que à supposer que ce livre
je
soit mauvais,
littéraire, là, hein?
Oui, mais à supposer que ce livre soit mauvais, ce qui est très possible, je ne l'ai pas lu et je me garderai prononcer à ce sujet. Qu'est-ce que, du point de vue du droit, cela peut changer à la question qui est posée? Si dans la mesure même où il est mauvais, on peut dire qu'il ne compte pas.
Alors,
et que tout le monde est prêt à penser qu'il est bon par le seul la manière même dont il est pourchassé.
D'accord. Alors, du point de vue du droit tel qu'il fonctionne dans les sociétés européennes, encore une fois, dans les droits de l'homme que les générations passées ont conquis, heureusement pour nous, la question ne se pose pas. Je vous suis entièrement, ça n'affecte absolument pas le livre, quel que soit. S'il est mauvais, on dira qu'il est mauvais, on le rangera quelque part. Et s'il est bon, eh bien, il va provoquer cette promotion dont je parlais. D'accord, il n'y a pas de problème là-dessus, je ne discute pas ça. La chose que je discute maintenant, c'est les enjeux de pouvoir. Les enjeux de pouvoir que ce livre implique pour les sociétés musulmanes aujourd'hui.
Mais est-ce qu'il ne l'implique pas uniquement par l'affaire qui a été créée, qui va se présenter fatalement à son issue comme une victoire ou une défaite pour les sociétés musulmanes par la manière même dont le livre a été reçu?
Non, le livre a été reçu, vous le savez, par les musulmans de l'Inde, c'est à eux qu'il s'adressait en priorité, puisqu'il est d'origine indienne. Et vous savez que les musulmans de l'Inde, qu'ils soient 100 millions, sont une minorité dans l'Inde, et qu'ils vivent dans une situation de minorité par rapport aux autres, et que par conséquent, tout ce qui touche, ce qui fonctionne pour eux comme le capital symbolique sur lequel ils fondent leur identité, est reçu évidemment avec beaucoup de sensibilité.
C'est la raison pour laquelle d'ailleurs...
C'est de cela qu'il faut tenir compte. Mmh. Et c'est ce que j'appelle les enjeux de pouvoir.
Oui, mais alors toi, justement...
Ils fonctionnent pour eux comme le capital symbolique sur lequel ils fondent leur identité, est reçu évidemment avec beaucoup de sensibilité.
C'est la raison pour laquelle d'ailleurs...
C'est de cela qu'il faut tenir compte. Mmh. Et c'est ce que j'appelle les enjeux de pouvoir.
Oui, mais alors que justement...
Et puis ensuite, il y a les enjeux de sens. Les deux enjeux. Les enjeux de pouvoir et les enjeux de sens.
Marcel Gauchet, et j'interviendrai juste ensuite.
Juste, très brièvement. Mais alors, on peut comprendre la motivation d'une minorité pour qui rejette le livre comme par susceptibilité minoritaire. Mais ce dont il faut rendre compte ensuite, c'est de la manière dont cette protestation compréhensible est orchestrée à l'échelle mondiale.
Oui, ça d'accord. Ça,
c'est et par des pays où l'islam est tout à fait majoritaire.
Oui, absolument, ça je suis tout à fait d'accord. Alors c'est un autre plan de discussion.
Tout de même, il est possible que sur le plan du droit, la question de savoir si le livre de Rushdie est bon ou mauvais n'est pas pertinente. Moi, j'aurais plutôt tendance à croire qu'il est bon dans la mesure où j'ai lu les deux précédents, à savoir les enfants de minuit et la honte, j'en ai parlé d'ailleurs dans la dernière émission, qui sont, je crois, de très grands romans. Mais d'autre part, je voudrais...
Je ne me prononce pas. Hein,
je voudrais personnellement vous signaler une déclaration que Rushdie a faite au journal Libération, lorsqu'on lui a demandé pourquoi il écrivait. Vous savez, Libération a fait une immense enquête, il avait interrogé 400 écrivains, dont Rushdie, et il a donné une réponse en 6 points. Je vous lirai simplement un des points, que je trouve très, très révélateur et très intéressant. Vous parliez du sacré, Mohamed Harkoun. Il dit, j'écris parce que l'on m'a appris enfant à embrasser un livre si par inadvertance je venais de le laisser tomber à terre, et l'on embrassait ainsi que les livres et le pain. Donc il a été éduqué dans une certaine idée sacrée du livre, et il a voulu, et je crois que c'est aussi cela, c'est une définition, je veux dire, de la laïcité, une définition possible de la laïcité au sens occidental, c'est-à-dire étendre la sacralité du livre au livre dit de littérature. Autrement dit, si vous voulez, ne pas cantonner la sphère du spirituel aux valeurs religieuse, surnaturelle, mais d'une certaine manière conquérir à l'intérieur du monde spirituel l'autonomie des valeurs de l'art et du domaine de l'art et de la pensée. C'est cela qu'il a voulu faire, et il me semble que c'est aussi l'un des enjeux de cette affaire, c'est-à-dire y a-t-il place ailleurs que dans le monde occidental, où des menaces d'ailleurs pèsent sur cette forme de culture également, mais y a-t-il place ailleurs pour cette autonomie de la littérature?
J'ai été élevé, comme je dis, exactement dans ce sens.
Mais alors,
vous
vous sentir solidaire avec lui?
Sur ce point-là, oui. Sur ce point-là, oui. Mais encore une fois, je veux, moi, regarder ce livre, le lire avec ma perspective d'historien de la pensée islamique, avec mes soucis de connaissances anthropologiques du religieux que j'étends justement à l'ensemble des sociétés du livre, poser ces problèmes-là de la façon la plus large, et je n'exclus pas du tout le fait que ce livre puisse nous apporter quelque chose d'important. Je ne l'exclus pas du tout. Je suis absolument ouvert à cela. Et je suis ouvert à tous les apports d'écrivains, de chercheurs, de tout ce qu'on veut. Je suis à l'affût. Ceci dit, je répète, il ne faut pas perdre de vue la situation actuelle des sociétés musulmanes. Situation politique, toute la légitimité du pouvoir, et vous êtes bien placé pour parler de ce problème-là, Marcel Gaucher, toute la légitimité est fondée sur la référence à l'islam primitif. Or, il s'agit de l'islam primitif. Même, encore une fois, si ce livre est formidable, il n'en reste pas moins que dans l'état, la conjoncture historique actuelle des sociétés musulmanes, dans la mesure où il déstabilise quelque chose pour laquelle les sociétés musulmanes ne sont pas préparées, eh bien, elles vont réagir de la façon dont réagissent les sociétés dont la légitimité, les fondements de légitimité se trouvent attaqués.
Mais le scandale n'est pas toujours un mal, et on peut aussi se donner une vision optimiste de cette affaire qui soit l'occasion d'une prise de conscience à l'intérieur des sociétés islamiques, des sociétés musulmanes, des limites de leur propre système de légitimité et de la nécessité d'intégrer un autre rapport à ce qui leur sert de modèle quotidien. Vous avez là-dessus parfaitement raison. Et après tout, on peut aussi espérer que le rôle d'un certain nombre d'intellectuels à l'intérieur de l'ère musulmane sera d'expliciter cette transformation nécessaire. Mais je voudrais revenir au problème de la laïcité en quittant un peu cette affaire Rushdie, à ce problème de laïcité en rapport avec les droits de l'homme. Parce que, autant je suis d'accord avec vous sur la distance, qui est d'ailleurs une distance de fait, il n'y a pas lieu de se battre contre un adversaire qui n'existe plus, qu'il faut prendre avec une laïcité, Troisième République, un peu périmée. Autant je crois que c'est un problème sur lequel il faut bien s'entendre, car il a des implications décisives du point de vue des droits de l'homme et de leur exercice effectif. Et j'en prends un exemple qui touche non pas les sociétés islamiques, mais les ressortissants de l'islam en France.
Oui.
Le modèle français de laïcité a directement à voir, dans l'idéal républicain, avec un très fort centrage du droit sur l'individu. Ce qui, dans les problèmes qui sont aujourd'hui posés, d'immigration et de l'intégration ou de l'assimilation, n'ayons pas peur des mots, des communautés d'origine musulmane en particulier, a des implications qui ne me paraissent pas nécessairement elle à rejeter. Au fond, toute démarche d'intégration oscille entre deux pôles. Ou bien l'intégration des communautés qui peu ou prou tacitement tend à reconnaître un droit de la communauté prééminent sur les droits des individus qui la composent. Et je me demande dans quelle mesure ce n'était pas un petit peu ce vers quoi vous tendiez dans cet entretien au monde que nous évoquions. Et puis un modèle qui est le modèle républicain français classique qui insiste au contraire, quelquefois dans des formulations qui nous font un peu peur par leur extrémisme, que la scène primitive de tout cela est le débat sur l'émancipation des juifs de la Constituante, où on dit qu'il s'agit de ne rien accorder aux juifs en tant que juifs.
Rien en tant que nation. Alors, et tout qu'en tant qu'individu.
Ceci peut nous choquer dans l'extrémisme du propos, mais a d'énormes conséquences dans la pratique. C'est ce modèle d'intégration des individus qui, personnellement, je dois le dire, me paraît beaucoup plus respectueux du fond des droits de l'homme et qui, dans l'idée de laïcité à la française, me paraît à sauvegarder, quelle que soit l'évolution qu'on doive, par ailleurs, aménager sur ce plan de la laïcité. Alors, je serais très curieux, Mohamed Harkoun, d'avoir votre opinion sur ce point.
Quel est le modèle d'intégration que vous-même favoriseriez entre ces deux pôles décrits par Marcel Gauchet ?
Le modèle d'intégration, je préférerais dire d'insertion, parce que l'intégration est un mot trop fort. Justement,
là, ça commence. Commencez déjà à prendre vos distances.
Oui, c'est intéressant, parce que ce qu'il s'agit de sauvegarder, ce sont les problèmes que pose la présence en France de cette communauté depuis seulement un certain nombre d'années, d'une communauté assez importante. Et à cet égard, il faut voir exactement ce qui s'est passé pour la communauté juive en France depuis la Révolution, depuis la Bégarinoire, depuis l'émancipation de la communauté juive. Je crois que ça a posé des problèmes très équivalents.
Mais justement, ils se sont plus ou moins résolus. Ben, il est possible que les choses soient rediscutées, mais ça s'est résolu dans le sens républicain.
Alors, ce que je demande,
vous êtes pour la même chose.
Je suis pour la prise en charge de tous ces problèmes et la discussion de tous ces problèmes en tant que problème.
C'est une réponse un peu dilatoire, ça.
Non, pas du tout. Par exemple,
vous voulez créer une commission, si je...
Écoutez, je ne peux
pour
pas...
Pour un problème, on crée une commission.
C'est parce que ça n'est pas simple, écoutez, Alain Finkielkraut. Ça n'est pas des problèmes très simples, ça. Parce que, justement, il y a des apports culturels, il y a des positions philosophiques qui sont amenés par cette communauté et qu'il faut prendre en considération.
Mais je veux quand même vous dire personnellement comment je comprends l'alternative posée par Marcel Gauchet. Reprenons la phrase effectivement initiale, inaugurale de Clermont-Tonnerre. Tout aux juifs en tant qu'individu, rien en tant que nation. Je crois qu'aujourd'hui elle ne signifie pas que les juifs, pour s'assimiler, doivent sacrifier complètement, disons, leur existence communautaire. Si communauté il y a, elle doit être organisée sur le modèle moderne de la communauté, c'est-à-dire de liens librement consentis entre les individus, et le modèle d'une communauté qui laisse à ses adhérents, si vous voulez, les deux options, et là j'utiliserai un vocabulaire qui me vient d'un économiste américain, Albert Hirschman, les deux options de la voie et de la fuite, si vous voulez. La voix, c'est la possibilité pour chacun, à l'intérieur d'une communauté, de donner de la voix, c'est-à-dire de protester contre ce qui ne va pas. La fuite, c'est la possibilité de s'en aller. Et il me semble que l'affaire Rushdie, entre autres, révèle le refus de la communauté, du modèle musulman de communauté, et de la voix, et de la fuite. Il y a deux verbes anglais là-dessus, to flight et to fight. Si vous donnez de la voix, et si vous vous en allez, parce qu'au fond, d'une certaine manière, Rushdie a fait les deux. Alors, il est parti, et il a donné de la voix. Et il a dit, c'est pas possible. Ni la dissidence, ni la désertion ne sont d'une certaine manière permises. Et là, il y a un problème grave. Est-ce que ce modèle tutélaire, voire totalitaire de communauté, est acceptable, où que ce soit, et notamment pour l'islam en France?
Oui, alors, première chose, je suis tout à fait d'accord sur ce que vous venez de dire en tant qu'intégration d'une communauté, tout pour les individus, etc. Sur ça, en tant que schéma général, je suis absolument d'accord. Il n'y a rien à retirer à cela. Ceci dit, n'oublions pas ce que j'ai dit dès le début, le décalage culturel
de, non seulement des sociétés musulmanes, mais de ces musulmans qui sont en Europe. Il y a 10 millions de musulmans en Europe. Les Turcs en Allemagne ont le même problème de décalage culturel et de décalage intellectuel. Et voyez cette conversation que nous avons ici. Chaque fois que vous soulevez des problèmes, on a, par exemple, là, le point le plus important de mon interview, c'était de dire les Français ne doivent pas tirer déjà des conclusions pour dire ils ne peuvent pas s'assimiler, c'est tellement différent, c'est autre chose, etc. Parce que c'est trop tôt. Il faut donner du temps à ces gens-là. Combien de temps a pris la communauté juive pour en être au point où elle en est maintenant? Tout de même, nous sommes historiens. Qu'est-ce qui s'est passé encore au 19e siècle? Comment vivaient les Juifs? Moi, je suis d'origine algérienne. Je me rappelle les Juifs en Algérie, comment ils vivaient. Et le temps que cela a demandé pour que les Juifs soient au point où ils en sont aujourd'hui dans la société française ou dans les sociétés européennes en général.
On pourrait vous répondre quand même que l'idéal d'émancipation leur a été tout de suite.
Ce que je demande, c'est de voir la chose dans une perspective historique dynamique. C'est-à-dire que cette communauté-là est appelée à évoluer. Et elle est appelée à intégrer des choses sur le plan intellectuel et sur le plan culturel qu'elle n'a pas encore intégré. Je parle dans mes livres de l'impensé dans la pensée islamique. De l'impensé. Tout ce qui s'est passé intellectuellement depuis le 18e siècle et qui a été si profondément assimilé, travaillé dans toute la tradition depuis deux siècles maintenant, tout cela, c'est l'impensé dans la pensée islamique. Et vous demandez à ces gens-là de réagir comme si c'était pensé, ça n'est pas possible.
Non, tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Il est clair que nous sommes en effet dans un processus extrêmement rapide de transformation culturelle à l'intérieur d'une communauté qui arrive sur des bases de référence qui ne sont pas d'ailleurs que religieuses. Pour une grande partie, il s'agit tout simplement de paysans transplantés.
Absolument.
De montagnards, de nomades. Qui ne peuvent du jour au lendemain, certainement, entrer dans la psychologie et le mode de pensée de l'occidental moderne.
Tout ça. Et il y a en France un procès sur l'excision.
Mais
vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte du décalage? Et vous demandez à ces gens-là de réagir comme si...
C'est là où je ne vous suivrai pas. On peut parfaitement mesurer tous les paramètres que vous soulignez de façon indiscutable. Et je crois qu'il a prudence la plus grande. C'est là où probablement nous avons changé par rapport à un laïcisme militant qui, en effet, était aveugle, était indifférent à ce qu'était superstition et fanatisme.
Voilà.
L'expression qu'il affectionnait. Bon, là, à cet égard, nous savons que ça n'est pas que superstition et fanatisme, et nous ne le traiterons pas comme ça. Mais déjà, moi, je suis choqué, si vous voulez, quand on parle des musulmans de France, comme si ipso facto, ils formaient une communauté. Comme si, parmi ces gens d'origine musulmane, comme moi je suis d'origine catholique, il n'y avait pas une quantité de gens qui n'avaient précisément que faire d'être musulmans et qui se considéraient avant tout comme des individus de droit faux, français, et ne relevant d'aucune espèce d'appartenance communautaire qui leur dicterait une identité ou une,
tout à fait d'accord,
une manière de vivre qui personnellement leur est simplement étrangère, comme c'est vrai d'une partie des juifs, et bien entendu d'une grande partie des gens d'origine chrétienne à l'intérieur de nos sociétés. Donc n'enfermons pas ces musulmans dans le concept musulman en les rejetant du côté d'une identité globale qui n'existe pas. Je crois en même temps, si vous voulez, que l'autre versant, qui est la responsabilité de nos sociétés, est de pousser dans le sens de ce qui, y compris dans la culture spontanée des personnes que vous évoquez, va dans le sens des droits de l'individu et non pas de les conforter dans une différence en disant bah oui, on sait que vous êtes des arriérés en quelque sorte,
non,
nous vous respectons dans cette arriération. Autant il faut avoir de prudence, autant ça n'empêche pas les autres, ceux qui sont de fait responsables par leur état majoritaire, de la manière dont va être conduite la politique à l'égard de ces minorités, de pousser dans le sens des droits de l'homme et par des moyens qui peuvent être toutes les poursuites de droits dont dispose notre société, à l'intérieur d'un régime intelligemment compréhensif de ce...
des obstacles. J'accepte tout ce que vous dites.
Ah, vous êtes d'accord là-dessus?
Absolument.
Et donc, bon, on peut... écoutez, alors, est-ce qu'on...
Le débat va cesser, là.
Mais de toute façon, il va cesser, parce que le temps s'écoule. Mais
non,
une dernière question à vous poser, je crois.
Je suis tout à fait d'accord sur ce que vous dites, entièrement d'accord. Je ne retire rien à ce que vous venez de dire.
Bien.
Est-ce que, précisément, alors...
Une question.
Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que l'Occident est la chance de l'islam? Est-ce que, précisément... C'est...
Je ne dirais pas ça comme ça.
Non.
Ce serait un accord très hypocrite.
Non, je ne le dirais pas.
Est-ce que ces communautés musulmanes installées en Europe et qui bénéficient malgré tout de conditions d'acculturation incomparablement plus fécondes que celles dont elles jouiraient dans leur pays d'origine ne sont pas la chance d'une évolution intellectuelle de la civilisation islamique qui aura rayonnement
universel? Quelques secondes pour répondre.
Quelques secondes. Moi, je dirais ce que Jacques Berck dit. De la communauté musulmane en France. Il dit, Jacques Berck,
c'est Jacques Berck,
que la communauté musulmane en France est une chance de plus pour la France pour rendre plus pluriel encore toutes les discussions au sujet de ces problèmes et pour introduire une dynamique historique à l'intérieur de la société française. Je vois ça comme ça.
Merci Mohamed Harkoun, merci Marcel Gauchet pour cette très belle discussion. Je rappelle les titres de vos deux livres. Mohamed Harkoun, vous avez écrit un livre qui s'intitule Une ouverture sur l'islam chez Jacques Granchet. Et dans la Bibliothèque des histoires des éditions Gallimard, Marcel Gauchet a publié La révolution des droits de l'homme. La semaine prochaine, l'émission Réplique sera consacrée à la Croix-Rouge, les déportations et les camps de concentration nazis, avec Jean-Claude Favez, qui vient de publier un livre intitulé « Une mission impossible » sur le CICR et ce problème, et Carlos Bovert, qui est aujourd'hui porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge à Genève.